Bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Ici à Paris, il est maintenant pile 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Des faits, des analyses, des reportages, des commentaires, c'est RFI Soir, mais tout de suite le journal. En Israël, le retour de 4 otages de Gaza et la libération de plusieurs dizaines de Palestiniens. En RDC, l'UA qui appelle à la cessation des hostilités dans les environs de Goma. Au Soudan, des dizaines de morts dans une attaque de drones contre un hôpital au Darfour. En football, la Ligue 1 Monaco bat Rennes 3-2 et retrouve le podium. La guerre au Soudan, marquée donc par la mort de 67 personnes, elles ont été tuées dans une attaque de drone contre l'un des derniers hôpitaux en activité à El Fasher, qui se trouve dans la région du Darfour. Elles sont libres et ont retrouvé les leurs. Âgées de 19 à 20 ans, 4 soldates otages à Gaza depuis le 7 octobre ont été libérées par le Hamas ce matin. Dans le même temps, en Cisjordanie occupée, il y a eu la libération de 200 prisonniers palestiniens. Ce deuxième échange intervient près d'une semaine après l'entrée en vigueur d'une trêve dans le territoire à Gaza. Et c'est la joie hein, sur la place des otages à Tel Aviv. Où vous vous trouvez, Nicolas Falaise?
Alors c'était assurément la joie sous le soleil ce matin lorsque la libération des 4 soldats a été suivie ici même en direct par une foule qui avait les yeux rivés sur les écrans géants et qui a laissé éclater son soulagement et son émotion. Ce soir, l'ambiance était de nouveau recueillie car après les libérations de dimanche dernier et d'aujourd'hui, il reste encore 90 otages dans la bande de Gaza. La mort de 35 d'entre eux a été confirmée, ce qui ne veut pas dire que tous les autres sont en vie. Ce qui fait planer une angoisse terrible pour certaines familles qui pourraient découvrir dans les prochaines semaines, lors des futurs échanges, que leurs proches ne rentreront pas vivants. Je viens de m'entretenir avec le père d'un otage qui m'a dit à quel point il se réjouissait pour les familles qui ont retrouvé leurs enfants ces derniers jours, mais à quel point aussi il souffrait de ne pas savoir quand son fils serait libéré, sans même savoir si son fils est encore en vie. Ce samedi, alors qu'Israël se réjouissait de la libération de 4 soldats, une autre famille a exprimé sa douleur, celle des 2 jeunes enfants de 2 ans et 5 ans, otages à Gaza, ainsi que leurs parents. Ce soir encore, nos âmes ne seront pas en paix, disent leurs proches, qui espéraient le retour des 2 petits garçons et de leur.
Nicolas Falaise, en Israël, pour Radio France Internationale. L'Union africaine appelle à la cessation immédiate des combats dans l'est de la RDC. Ils se sont intensifiés ces dernières semaines, se rapprochant notamment de la grande ville de Goma. Ces combats entre l'armée congolaise et le groupe M23, soutenu par le Rwanda, se déroulent désormais donc à une vingtaine de kilomètres de la capitale régionale du Nord Kivu, qui compte 1 million d'habitants et au moins autant de déplacés. Afrique Soir, dans une demi-heure, sur RFI. Les conséquences directes de la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Donald Trump interrompt l'aide apportée par son pays à des ONG, et ce pour 90 jours, le temps d'évaluer ses programmes. Cette décision ne concerne pas l'Égypte ni Israël. Elle épargne également l'aide alimentaire d'urgence. Il n'en reste pas moins qu'elle plonge les organisations humanitaires dans une période de doute, comme Oxfam, qui mène des actions dans une quarantaine de pays. Louis-Nicolas Jandot, responsable humanitaire de l'ONG.
On est extrêmement effrayé par cette annonce. Ça fait rentrer le monde de l'humanitaire dans son entièreté dans une incertitude terrible sur tous les programmes d'aide humanitaire, évidemment américain, mais compte tenu du poids des États-Unis, c'est vraiment la réponse à toutes les crises humanitaires actuelles qui est remise en question. Il faut avoir en tête que les États-Unis sont le principal bailleur d'aide humanitaire et de très très loin. Ça fait par exemple, ça fait planer un doute complet sur certains programmes qu'on a engagés au Liban, où aujourd'hui, à titre d'idée, donc c'est 40% de l'aide humanitaire engagée qui devait être fournie par les États-Unis. Et donc nous, ça veut dire que sur nos 5 programmes spécifiquement en réponse à ce plan humanitaire, eh ben on en a au moins 2 où on n'a plus aucune certitude qu'on va pouvoir les mettre en œuvre sur l'année à venir.
Propos recueillis par Nicolas Feldman. Il confirme et signe en Allemagne. Elon Musk intervient par vidéo dans un meeting pour soutenir l'extrême droite, meeting de l'AFD. Battez-vous pour un avenir radieux pour l'Allemagne, leur a-t-il lancé à ses militants. Cela après la polémique et ce geste qui ressemblait à un salut nazi le jour de l'investiture de Donald Trump. Demain, ce sera le dernier jour du scrutin présidentiel en Biélorussie. L'issue ne fait aucun doute. À 70 ans, Alexandre Loukachenko va rempiler pour un 7e mandat à la tête de ce pays allié de la Russie. En février 2022, une partie de l'armée russe était même passée par la région biélorusse de Gomel pour franchir la frontière et entrer en Ukraine. Dans la capitale de cette région, à 40 km de la frontière avec l'Ukraine, rejoignons Anissa El-Jabri.
Longtemps, Gomel a été un important nœud ferroviaire sur la ligne reliant Kiev à Minsk à la sortie du marché central. Pour tous, la guerre qui fait rage en Ukraine est particulièrement proche.
Oui, cela nous affecte. Partout, les gens ordinaires comme nous veulent la paix. J'ai arrêté de suivre les événements, mais j'aimerais vraiment que cela se termine pacifiquement, parce que c'est dur.
C'est à mon avis une question secondaire pour Trump. Bien sûr, il a fait une promesse publique, donc bien sûr, ce serait bien pour lui de dire « Regardez, me voilà, j'ai tout fait rapidement ». Mais il y a aussi la partie russe qui, elle aussi, aime rouler des mécaniques et fixer ses conditions. Et leur économie est désormais étroitement liée à l'industrie militaire, et toute la population suit le pouvoir. Pour moi, aujourd'hui, il n'est pas dans leur intérêt de mettre fin au conflit.
Je ne pense pas. La fin de la guerre n'arrivera pas de si tôt. J'ai de la famille en Ukraine et tout cela me blesse, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut faire avec. La fin n'est pas pour maintenant, même si j'ai toujours de l'espoir.
Ils sont nombreux dans la ville à se dire que le conflit pourrait durer au moins jusqu'à l'hiver prochain. Anissa El-Jabri, Gomel, RFI.
La mort de l'archevêque de l'église orthodoxe d'Albanie, Monseigneur Anastasios, qui avait 95 ans. Cette figure de la minorité grecque en Albanie a été l'artisan de la renaissance de l'église orthodoxe à Tirana, après la chute de la dictature communiste au début des années 90. En l'an 2000, son nom avait également été proposé pour le prix Nobel de la paix. Les précisions de Joël Brunner.
L'église orthodoxe de Tirana, la capitale albanaise, a été la première à exprimer par communiqué sa grande douleur à l'annonce du décès de son archevêque charismatique. De nationalité grecque, Monseigneur Anastasios était hospitalisé à Athènes depuis le début du mois en raison d'une infection virale. Dans son pays d'origine, la Grèce, où la religion orthodoxe est ultra dominante, les hommages politiques n'ont pas tardé à affluer. La présidente Katerina Sakellaropoulou a ainsi salué l'homme de paix, le promoteur du dialogue, de la fraternité et de la coexistence pacifique des peuples. À la fin des années 90, Monseigneur Anastasios s'illustre en effet par son implication dans le processus de réconciliation en Albanie après la guerre civile et la guerre du Kosovo. De son côté, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis évoque lui la contribution inestimable de ce pionnier de l'église orthodoxe en Albanie, pays à majorité musulmane. Sur une période de 30 ans, l'archevêque a ainsi contribué à faire renaître l'église de ses cendres après plusieurs décennies d'un régime autoritaire qui avait imposé à l'Albanie un athéisme d'État. Joël Brunner, Athènes, RFI.
Ne l'appelez plus Fondation Abbé Pierre. Selon un arrêté du ministère de l'Intérieur publié au Journal officiel, aujourd'hui l'organisme prend le titre de Fondation pour le logement des défavorisés. Le changement acté consiste uniquement à retirer le nom du fondateur pour dire que ce combat qui est le nôtre sans l'Abbé Pierre reste le même. En matière de lutte contre le mal logement, on sera là, promet la Fondation qui ne veut plus pâtir des actes commis par le curé fondateur. C'est la finale ce soir de la Star Academy, le télécrochet de TF1, largement commenté sur les réseaux sociaux avec parfois son lot d'insultes racistes. L'une des deux candidates finalistes, Ebony, originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, en est victime au point que deux associations ont déposé plainte, Baptiste Coulon.
La plainte vise une dizaine d'internautes. En cause des messages sexistes et racistes sur Facebook, X ou TikTok, appelant à ne pas voter pour Ebony en raison de sa couleur de peau. Si elle a été rendue publique, c'est pour deux raisons, explique Samuel Thomas, président de l'association La Maison des Potes.
L'enjeu, en fait, c'est d'obtenir que la condamnation d'une dizaine de personnes dissuade tout un tas d'autres racistes d'exprimer leur racisme. Et si on a rendu publique cette plainte ce matin et pas lundi, c'est aussi pour que la modération des publications soit le plus efficace possible ce soir.
Car pour l'heure, elle fait défaut. Ces messages deviennent systématiques quand une personne noire ou arabe participe à un télécrochet, dénonce les associations, et les auteurs sont rarement identifiés. Alors médiatiser le dépôt de plainte apparaît là aussi comme une solution.
Le parquet, à ce moment-là, va se sentir obligé de considérer qu'il y a un trouble manifeste à l'ordre public et il va mobiliser des effectifs pour aller chercher l'identité des personnes derrière leur pseudo.
Dans la moitié des cas, aucune poursuite contre les auteurs n'est engagée d'après l'association. Alors c'est au public qu'elle s'en remet pour la finale de la Star Academy ce soir, en demandant de signaler les propos haineux et de conserver le lien URL du message. Il est à la fois une preuve juridique et le meilleur moyen de remonter jusqu'à l'auteur du commentaire.
Voilà, finale ce soir dans 2 heures. Ainsi va le monde, vous écoutez Radio France Internationale. Il est maintenant 19h10 ici à Paris, 18h10 en temps universel, les sports. Et du football pour commencer, Baptiste Leduc. Le Paris Saint-Germain reçoit Reims en Ligue 1 et le Parc des Princes va faire la connaissance de son nouvel attaquant.
C'est Gvisha Kvaratskhelia, recruté à Naples cet hiver contre 70 millions d'euros. Il devrait faire ses débuts ce soir avec le club parisien. Même s'il n'a partagé qu'une poignée d'entraînements avec ses nouveaux partenaires, son entraîneur Luis Enrique est satisfait de son intégration, mais le technicien espagnol reste flou sur son utilisation ou pas contre Reims.
Quand va-t-il commencer à jouer? Cela dépend de ses entraînements. De toute façon, lorsqu'on recrute un joueur, c'est que nous sommes persuadés qu'il peut améliorer le rendement de l'équipe, même s'il est déjà très élevé. À partir de là, quand il va débuter, c'est difficile de le savoir, mais ce n'est pas le plus important. Le plus intéressant, c'est qu'il est déjà dans la dynamique du groupe. Il commence à voir ce que nous demandons aux joueurs et j'en suis très heureux. En tout cas, physiquement, il est très bien. Aucun problème à l'entraînement. Il est parfaitement adapté. C'est un joueur du Paris Saint-Germain. Je le sens vraiment bien. Il est prêt.
Muy bien, preparado.
PSG Reims, coup d'envoi à 20h en temps universel. Un peu plus tôt, Monaco a battu Rennes, 3-2. Et Lille se déplace actuellement à Strasbourg. Les Lillois mènent 1-0.
Le football en Angleterre. Liverpool poursuit sa route vers le titre en Première Ligue.
Nouvelle victoire facile des Reds face au promu Ipswich. 4-1 grâce à des réalisations de Mohamed Salah, Dominique Soboslai et un doublé de Cody Gakpo. Arsenal a gagné aussi contre Wolverhampton 1-0. Mais les Gunners restent à 6 points de Liverpool. La surprise du jour est venue de Bournemouth. Les Cherries ont fait couler Nottingham Forest, le troisième du championnat. Victoire 5-0 des Rouges et Noirs, grâce notamment à un triplé de l'attaquant burkinabé Dango Ouattara. Des buts, on en attend aussi entre Manchester City et Chelsea, qui s'affrontent en ce moment même. 1-0 pour les Blues.
Voilà pour le football. En tennis, l'américaine Madison Keys a remporté l'Open d'Australie. C'est sa toute première victoire en Grand Chelem. Hein.
Et elle l'a obtenue de quelle manière, Philippe? Madison Keys s'est offert en finale le scalp d'Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, 6-3, 2-6, 7-5, après avoir battu la numéro 2 Iga Swiatek en demi. Véritable exploit de l'américaine de 29 ans. Et chez les messieurs, la finale se jouera ce dimanche à 8h30 en temps universel. Elle opposera l'italien tenant du titre Yannick Sinner à l'allemand Alexander Zverev.
Et puis en rugby, le rugby féminin qui profite du puissant top 14 chez les hommes pour améliorer sa médiatisation.
C'est l'idée en tout cas de ce partenariat entre l'Elite 1, le championnat de France de rugby féminin, et Canal+, qui diffuse donc son homologue masculin, le top 14. L'idée est de proposer des doubles affiches comme ce samedi en baissé de rideau de Toulouse-Montpellier de top 14. Les abonnés de la chaîne cryptée ont pu assister à la même affiche, mais pour l'Elite 1. L'Élite 1. Résultat, une victoire écrasante des Toulousaines 46-12 et une belle avancée pour le rugby féminin selon Laura Di Muzio, une ancienne internationale française.
J'avais l'impression quand même que depuis quelques années, on avait vécu des retours en arrière. Et là, je trouve qu'on est reparti dans le bon sens. Le fait de s'appuyer sur des clubs de top 14 et sur des double headers, comme on le dit, donc des affiches communes, c'est une bonne idée. En termes de marketing, ça permet de clarifier le discours. Ça permet aussi à des non-initiés de se rendre compte que un championnat féminin existe. Je pense que c'était la meilleure façon de pouvoir communiquer sur cette première année, sur ce premier partenariat. C'était en effet de dire, bon, vous regardez la semaine. Week-end typiquement le Lyon-Montpellier chez les garçons, retrouver la même affiche chez les filles, ça parle tout de suite et c'est beaucoup plus facile en termes de com.
Laura Di Muzio au micro de Solène Ravenel.
Baptiste Leduc pour les sports.
RFI Soir. Philippe Le Caplin.
Et l'actualité des médias, c'est avec vous Amaury Drochegonde. Les premiers jours de Donald Trump à la présidence américaine pèsent déjà sur certains journaux, radio, télévision, et ce à travers tous les États-Unis.
Et oui, ils savent qu'ils appartiennent à cette catégorie des ennemis du peuple décriés par Trump et qu'ils sont donc une cible possible. Jeudi, CNN a annoncé le licenciement de 6% de ses effectifs, dont une centaine de journalistes, pour réinvestir le terrain du numérique payant. Or, pendant qu'il annonçait ce plan, Mark Thompson, le patron de CNN, a fait part de ses exigences. Il a demandé de ne plus montrer de signes d'indignation lors de l'investiture, d'éviter l'éditorialisation et de ne plus revenir sur le passé pénal du candidat après sa condamnation pour avoir acheté le silence d'une actrice pornographique. C'est un revirement quand on se souvient qu'en 2022, CNN a été attaqué par Trump qui lui réclamait 475 millions de dollars pour diffamation car la chaîne qualifiait de mensonge l'idée que la victoire lui ait été volée en 2020. Le juge a rejeté cette plainte, mais cela n'a pas empêché Trump de parler de CNN comme de la chaîne des fake news ou de la menacer de lui retirer à elle comme à ABC et CBS sa licence de diffusion. ABC qui a d'ailleurs accepté de payer 15 millions de dollars pour que Trump renonce à un procès après des propos erronés d'un présentateur.
Et c'est ce qui pousse Mark Thompson à moins d'engagement.
Peut-être, mais c'est aussi le raz-de-marée qui est allé vers sa rivale Fox News qui accumule près des trois quarts de l'audience des chaînes d'info. CNN doit contrer la chaîne ultra-conservatrice qui a le vent en poupe grâce à ses interviews de Trump ou ses infos sur son administration, mais aussi MSNBC qui revendique la place de l'opinion anti-Trump au grand dam de son actionnaire qui cherche à la vendre. Entre les deux, CNN a perdu 35% de son audience en prime time depuis l'élection, même si cette chute est aussi dû à une fatigue post-électorale.
Et puis, c'est le Washington Post hein, qui joue également la carte de la prudence.
Pour ne pas dire la frilosité, son propriétaire Jeff Bezos a refusé que le quotidien s'engage en faveur de Kamala Harris. Un dessin le représentant en train de tendre un sac d'argent à une statue de Trump a été censuré du journal et son autrice a démissionné. Il était présent le jour de l'investiture et il a fait un don $1 million pour cette cérémonie. Il n'entend donc pas perdre un contrat à $10 milliards sur le cloud de la défense comme en 2019. Alors certes, les scoops et les éditoriaux sur Trump du Washington Post ou du New York Times ont dopé les ventes pendant le premier mandat de Trump, mais aujourd'hui, c'est comme si la presse avait compris que la révolution populiste trumpienne n'était pas une parenthèse, mais une tendance de fond.
Et puis, Amaury de Rochegonde, il y a cette autre menace qui pèse sur l'information dans le monde. C'est au Cameroun. La Cameroun Radio-Télévision, média d'État, suit la ligne éditoriale du pouvoir et les propos dissonants sont plutôt rares. Pourtant, l'une de ses journalistes, Lynn Renée Batongué, avait été arrêtée fin 2020 et avait fait l'objet de menaces. Et elle le raconte à Igor Strauss.
8 novembre 2020, Lynn Renée Batongué est en reportage dans la localité de Tête d'éléphant, en pleine zone forestière, à l'est du Cameroun. Lettre de mission en poche, elle réalise un reportage sur les bienfaits de la forêt pour les populations locales, quand tout à coup...
Le commandant de la brigade est venu vers nous et il nous a dit, écoute, le préfet a demandé que je vienne vous arrêter. Je lui ai demandé quels étaient les faits qu'on me reprochait. Il a dit qu'il n'en savait pas grand-chose lui-même et il fallait donc que j'aille me présenter au bureau du commandant de compagnie.
Mais au bureau du commandant, toujours pas de motif. Alerté, des collègues journalistes et des défenseurs des droits s'indignent sur les réseaux sociaux de cette arrestation arbitraire. Mise sous pression, les autorités finissent par lui signifier le motif de son arrestation.
Le préfet, en fait, il pensait que moi je partais pour autre chose parce qu'il était assez impliqué quand même dans l'exploitation illégale des forêts camerounaises.
Lynn Renée Batongué comprend vite qu'elle n'est pas en sécurité.
C'est clair que quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, on a peur. Et puis, vous savez, quand de gros intérêts sont mis en jeu, ils sont prêts à tout. Parce que les recettes issues de l'exploitation forestière sont énormes. C'est à coût de milliards d'euros.
Libérée après 2 jours, Lynn Renée continue d'être victime d'actes malveillants.
J'étais constamment menacée, constamment visitée par des bandits chez moi. Je ne comprenais pas quoi. À un moment, je me suis demandé, est-ce que tout ça n'est pas lié?
Des menaces exacerbées, selon elle, par le fait d'être une femme.
Quand c'est des confrères hommes, on se dit non, ils ont un peu plus de couilles, ils ont un peu plus de courage, donc ils ne peuvent pas. Par contre, quand on voit une femme, on la menace beaucoup plus. Et c'est ça souvent la difficulté avec les femmes journalistes qui se trouvent dans des secteurs à risque. Parce que le secteur environnement est un secteur à risque dans nos pays et donc on reçoit beaucoup de menaces.
Après un autre reportage sur l'exploitation d'une carrière près de Yaoundé, Lynn Renée Batongué est convoquée par sa direction.
Mon rédacteur en chef de l'époque m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, Lynn, je viens de recevoir plein de coups de fil menaçants à propos. Laisse tomber cette enquête. tu as des enfants, tu ne vas pas mettre et ta vie et la vie de tes enfants en danger. Laisse tomber, je t'ai dit, j'ai dit ok, j'ai entendu. Et j'ai laissé tomber la série.
Les menaces et les pressions, une façon efficace de faire taire les journalistes jusqu'au jour où ils osent témoigner.
Voilà pour le Cameroun, pardonnez-moi, où à Douala, il est 19h passé de 20 minutes. De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump montre la Chine du doigt. La guerre est commerciale, elle concerne également la cybersécurité. Dans un livre intitulé « De la cybersécurité en Amérique », Stéphane Taya pointe le paradoxe des États-Unis qui disposent d'atouts, mais qui peinent à organiser la sécurisation de leur propre espace numérique. Maître de conférence en histoire contemporaine à l'Institut français de géopolitique, enseignant à l'Académie militaire de Saint-Cyr, il en dit plus à Sylvie Noël.
Stéphane Taya, bonjour.
Bonjour.
Dans « De la cybersécurité en Amérique, puissance et vulnérabilité à l'ère numérique », vous nous plongez dans la galaxie complexe des acteurs américains de la cybersécurité. Mais comme vous le soulignez, si les États-Unis jouissent d'une supériorité incontestable dans ce domaine à l'échelle internationale, paradoxalement, ils présentent à l'échelle nationale de sérieuses vulnérabilités. Ce que l'on comprend à la lecture de votre livre, c'est qu'ils ont donc la supériorité incontestée dans l'offensive, mais la défense semble leur talon d'Achille. Pourquoi ?
Alors, c'est essentiellement lié à un patchwork. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser pour désigner l'ensemble des institutions, des réglementations, des législations qui essayent d'encadrer justement les standards de cybersécurité pour tous les opérateurs qui sont concernés par les questions numériques. Or, au départ, ça ne concernait évidemment que, on va dire, ce qui tourne autour d'Internet, mais de plus en plus, tout est numérisé. Donc, c'est un problème dont la complexité croît. Alors que le problème fondamental, structurel de ce patchwork, lui, n'est pas pour l'instant réglé, pour des raisons à la fois politiques, notamment vis-à-vis des acteurs privés, et puis aussi pour des raisons de moyens, hein, puisque effectivement, ça représente des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'opérateurs de tous ordres, à qui il faut pouvoir effectivement donner des critères clairs et des moyens, sachant que de son côté, le gouvernement fédéral, et notamment dans sa partie branche exécutive, est lui-même extrêmement complexe, plus d'une centaine d'agences. Donc on voit ici, en fait, le terme de patchwork s'implique en réalité à tout ce paysage, et c'est la principale explication de cette vulnérabilité.
Ce qu'il faut rappeler, on va arriver aux acteurs de la cybersécurité américaine, mais les premiers acteurs qui se sont appropriés le cyberespace, ce que vous nous expliquez dans votre livre, effectivement, ce sont les services de renseignement.
Oui, tout à fait, c'est la NSA, en fait, qui a très tôt compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à disposer de capacités d'interception évidemment des flux numériques, notamment grâce à la domination de ces plateformes, et puis surtout de capacités de piratage qui permettaient d'aller directement donc sur le lieu où se situent les secrets. Et donc la NSA a aujourd'hui une architecture globale qui lui donne un avantage que aucun autre État n'a dans le monde.
Parmi les acteurs de la cybersécurité américaine, on a donc, on le disait, la NSA. On va dire que c'est un peu la brique de base de cette galaxie du cyber. Ce sont, on va dire, des espions. Il a donc fallu que l'armée, elle aussi, dédie une agence à ses activités pour le cyber. Et donc là, on a un deuxième acteur.
C'est ça, le Cyber Command, qui a à peu près une quinzaine d'années aujourd'hui. Le principe du Cyber Command, c'est de légaliser, c'est-à-dire à la fois d'officialiser, mais aussi d'encadrer le fait de mener des opérations offensives, c'est-à-dire en dehors des réseaux américains, et surtout en temps de paix, en dehors des conflits armés. Et donc ça a été un long travail qui n'est pas encore abouti aujourd'hui. Voilà.
Le dernier acteur, c'est donc la CISA. Et son objectif à elle était principalement de répondre justement aux vulnérabilités des USA.
Oui, c'est ça. Alors la CISA, en fait, c'est la création en 2018 à partir d'une entité créée en 2007. La mission de la CISA, c'est de coordonner la gestion des crises cyber pour l'ensemble des agences fédérales, d'une part, et ensuite l'ensemble des infrastructures critiques au sein du département de la sécurité intérieure. Le problème, c'est que la CISA n'a pas été dotée par la loi des pouvoirs qui lui permettent de s'imposer aux autres acteurs fédéraux et encore moins au secteur privé. Et le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'élus républicains qui en veulent à la CISA pour des raisons qui n'ont fondamentalement rien à voir avec sa mission, puisque ils considèrent la CISA comme étant le bras armé de la censure que l'administration Biden aurait, selon eux, exercé contre les républicains durant 4 ans.
Ouais, ce serait le deep state, ouais, l'état profond qui essaie d'imposer ses vues. Et donc, la CISA peut-elle devenir l'acteur de la refondation ? Actuellement, que sait-on des intentions de Donald Trump ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens au Sénat qui veulent la peau de la CISA. notamment le sénateur Rand Paul, qui a pris la tête donc de la commission sur les affaires de sécurité intérieure au Sénat. Mais les démocrates ont nommé dans cette commission des sénateurs qui, eux, sont des farouches défenseurs de la CISA. Donc il faut s'attendre à avoir peut-être des batailles rangées au sein de cette commission. Nous verrons bien.
Merci Stéphane Taïa.
Je vous en prie. Merci.
De la cybersécurité en Amérique, c'est un livre publié par les éditions PUF.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Le manioc est l'aliment de base des Centrafricains. 9 sur 10 en mangent tous les jours. Appelé gozo, le manioc se mange avec tout type de nourriture et sa vente permet à beaucoup de vivre. C'est le cas du village de Bosongo, situé à 50 km de Bangui, au sud-ouest du pays, où s'est rendu pour RFI Rolf Steve Domayeux.
Comme tous les matins, Joseph Kamila vient d'arriver dans son champ de manioc d'environ 10 hectares à proximité de Bosongo. Sous un hangar en bâche, des tubercules de manioc sont entassés à même le sol. Assis sur des tabourets ou par terre, les ouvriers les épluchent. Joseph est un homme d'église. Il cultive le manioc depuis une vingtaine d'années. Ce métier n'a plus aucun secret pour lui.
Je suis pasteur, mais je gagne ma vie à la sueur de mon front. C'est la période de récolte. Après avoir épluché les tubercules, les ouvriers les plongent dans l'eau pendant 2 jours avant de les étaler au soleil. Et après séchage, le manioc est broyé au moulin afin d'obtenir la farine destinée à la consommation.
Grâce à cette technique de transformation, la clientèle n'est pas seulement locale. Elle provient également de la capitale et des localités environnantes. Debout à côté du dépôt, avec une vingtaine de sacs en plastique, Hortense, une consommatrice, a parcouru des kilomètres pour s'approvisionner à la source.
Le manioc d'ici est bien blanc avec un goût unique. Je viens de la capitale et c'est ici que je me ravitaille chaque mois. Mes enfants n'aiment pas le riz. S'ils ne mangent pas le manioc, ils ne sont pas rassasiés.
À Bosongo, presque tous les habitants sont à la fois producteurs, consommateurs ou commerçants de manioc. Assise sur un tabouret, non loin des sacs remplis, Fernande, 38 ans, fait partie de ceux qui tirent profit de cette activité.
Je pratique cette activité depuis une vingtaine d'années. Je suis veuve et c'est grâce à ce travail que j'ai construit ma maison, payé la scolarité de mes enfants. Le manioc me permet de m'occuper dignement de ma petite famille.
Dans sa plantation, Joseph Kamila emploie également une dizaine d'ouvriers et de démarcheurs qui gagnent leur pain grâce au manioc. Mais dans ce travail, les difficultés ne manquent pas.
Nos difficultés se résument au manque de matériel et surtout au tarissement des cours d'eau pendant la saison sèche. Nous n'avons pas de véhicule pour distribuer nos produits partout en Centrafrique, mais c'est un projet.
À Bosongo, le prix de la cuvette du manioc varie entre 2000 et 2500 francs CFA. Une fois acheminé à Bangui ou dans les périphéries, les prix sont ajustés à 3500 ou 4000 francs CFA pour permettre aux revendeurs d'en tirer profit. Rolf Esteve Domiale, Bangui, RFI.
Paris, 89 FM.
Paris ou au théâtre du Marais est à écouter et à voir et non pas à lire. Madame Bovary, sachant que le postulat de base est...
Nous sommes des générations de lycéens forçats qui se farcissent Madame Bovary sous la contrainte.
Du coup, comme il est écrit sur l'affiche, c'est moins long et plus drôle. Plus drôle car il s'agit d'une revisitation de l'œuvre célèbre de Gustave Flaubert. Le propos est décalé et dystopique. C'est ainsi que le verbe tenu de l'époque, télescope, la tchatche d'aujourd'hui. Camille Broquet et Marion Pouvreau.
L'ennui, on peut en rire en fait, et il suffit de suivre Flaubert parce que lui en rit aussi beaucoup dans son œuvre. Donc on a voulu montrer, nous, que à notre époque, on pouvait vraiment se marrer avec l'ennui, avec nos références à nous.
Miaou ! L'ennui, tous les chats sont gris.
L'ennui, gravement à la santé.
L'ennui, je mange, je prends des trains à travers la plaine.
L'ennui Kravitz, peu de gens le voient comme un roman drôle et nous on a voulu rendre ça drôle pour que ce soit accessible en fait et que voilà que les gens aient envie de se plonger dans l'histoire, de mettre des anachronismes, de mettre des références que tout le monde avait pour que voilà que les gens aient envie de suivre l'histoire quoi. Et qu'on se moque un peu des personnages et gentiment parce qu'en vrai on les aime hein, mais voilà, le rire, ça permet de rassembler.
On a même des merci de gens qui ont adoré le bouquin et qui savent pas comment en parler aux autres, à leurs propres enfants qui vont par exemple passer leur bac de français.
En fait, c'est hyper contemporain. Il a réussi à écrire quelque chose, on a l'impression que ça a été écrit hier, quoi. Tout ce que vit cette femme, on peut énormément se reconnaître dedans. De base, le bouquin n'est pas du tout périmé, au contraire, faut absolument le lire pour s'en rendre compte.
Et au bout du compte, voici la morale de la pièce et du livre consacrant l'un des personnages les plus célèbres de la littérature.
Faut savoir rester à sa place et se contenter de ce qu'on a, sinon on meurt. Quand on est une femme.
Voilà, et ce nouveau spectacle Madame Bovary avec Camille Broquet et Marion Pouvreau est joué au Théâtre du Marais à Paris pour refaire connaissance avec ce livre, effectivement, que bon nombre d'entre nous ont dû obligatoirement étudier à l'école. À suivre l'actualité en Afrique.
RFI, les voix du monde.